Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat? Pendant presque 2 ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite, pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
T'apprends avec le dance floor, t'apprends à jouer avec ton public, à les observer, à comprendre les signes, les signaux, à déchiffrer les choses et d'apprendre les règles du jeu. Comment tu vas jouer aux cartes? Pour moi, un set de DJ, c'est comme un jeu de cartes. T'attends certains moments pour abattre des cartes, pour rendre le truc plus excitant.
C'est le patron, le pape, le boss. C'est comme ça, en général, qu'on parle de lui en France. Pour beaucoup de DJ, c'est presque un père. Mais en fait, Laurent Garnier a avant tout été un enfant. Un enfant de Détroit et de Chicago, quand il découvre au tournant des années 80-90, ici, la techno, et là, la house. DJ, compositeur et producteur, Laurent Garnier a consacré sa vie à faire danser les autres. Chez lui, le sens de la fête est une vocation, presque un don divin. Comme si la bonne fée du dance floor s'était penchée sur son berceau. Comme s'il avait éclos d'une boule à facettes. On ne vit pas tous les mêmes premières fois. En débutant comme DJ au mythique club La Hacienda à Manchester, il est au premier rang pour assister à l'explosion de l'acid house et de l'ecstasy. La suite, c'est en partie lui qui va l'écrire, en tant que meilleur ambassadeur des musiques électroniques en France. Comme résident au Rex Club à Paris, la maison mère, et ses soirées Wake Up, où il reçoit tous les plus grands qui traversent l'Atlantique. Comme cofondateur du label F Communication, le bateau amiral, pour propulser les Frenchies et eux aussi leur faire traverser l'Atlantique. Avec une victoire de la musique, un livre, Electrochoc, un documentaire, Off the Record, une carrière d'homme de radio, de Nova à Radio Meux en passant par le Move, il accompagne, promeut et documente tout un pan de l'histoire. Et à 56 ans, il n'est pas prêt d'arrêter de nous faire danser. Laurent Garnier, It is what it is. Laurent Garnier, bonjour.
Allez, bonjour. Bonsoir.
Bonsoir.
On doit dire bonjour ou bonsoir?
C'est un podcast, on s'en fout.
Salut.
La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand?
Dimanche soir, ça m'a coûté beaucoup de points. En fait, je suis parti à un festival que j'aime beaucoup, qui bien sûr n'a pas eu lieu pendant 2 ans à cause du Covid, qui est le festival des foufous de Radio Meux, qui est à la Clusaz.
Dans les Alpes, donc?
Oui. Et j'ai été poser mes valises pendant 5 jours avec mon fils et un copain de mon fils, parce que déjà j'y jouais, parce que c'est mes potes. Le vendredi, je devais rien faire et en fait, j'ai fait les interplateaux entre tous les groupes, parce que je leur ai dit, ouais, en ce moment, je suis en train de faire des edits de funk et puis des edits de hip-hop et tout, ça me ferait plaisir de faire les interplateaux, donc j'ai fait ça. Samedi, mon fils a joué. C'était son premier set, donc c'était hyper mignon. C'était hyper touchant, en fait.
Il a quel âge?
Il a 18 ans. Donc, de le voir jouer devant du monde. Et puis, il y avait pas mal de monde. Après, je jouais à Genève samedi soir. Et nous avons décidé, de commun accord avec mon fils et son pote, de revenir à la Clusaz dimanche soir où Phil, un des protagonistes du festival Meux, m'a dit est-ce que tu as envie de jouer pour les bénévoles? Et je lui ai dit écoute, avec plaisir, parce que je sais que c'est toujours un beau cadeau de jouer pour les bénévoles. Et j'ai joué jusqu'à 8h du matin. des conneries, en buvant beaucoup de gentiane, et nous avons fait la fête. Après, une sorte de fête. C'était paillard.
Ah oui.
Non, non, je rigole. Je rigole, mais c'est, ouais, c'est toujours, il y a toujours beaucoup d'alcool dans leur... c'est des dingues à la montagne. Il y a du fromage et de l'alcool.
Deux ivresses, hein. L'ivresse alcoolique et l'ivresse fromagère aussi, hein. Ça
et musical, hein, non. D'abord
musical.
Qu'on soit bien d'accord, c'est l'ivresse musicale. Parce que je ne suis pas un alcoolique du tout. J'aime bien faire la fête, mais je suis pas un barjot de l'alcool. Sauf quand je vais à la Clusa, parce qu'ils fabriquent de la gentiane. Et cet alcool me rend fou. Donc j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai chopé une bouteille, j'ai bu une bouteille de gentiane, on a beaucoup rigolé.
Ça veut dire quoi faire la fête pour toi? Parce que quand je t'ai demandé quand est-ce que ça fait la fête, en fait, tu m'as cité tous tes DJ sets. En fait, est-ce que c'est toujours jouer des disques pour toi, faire la fête? C'est quoi? C'est retrouver les copains? C'est
Non, il n'y a pas... Alors, il y a énormément de musique pour moi dans la notion de la fête. Et c'est drôle que tu me poses cette question parce que dans 15 jours, je sors un nouvel EP. Et c'est une phrase que j'ai piquée à des graphistes parisiens qui ont fait un bouquin pendant le confinement. Un bouquin qui s'appelle « Annulé ». Et en fait, ils ont pris tous les flyers des festivals qui ont été annulés forcément à cause du Covid. Et donc, ils ont dit, voilà, on va au moins utiliser votre artwork, on va en faire quelque chose. Et ils ont pris la lettre que j'avais fait pour la ministre de la Culture. Et en fait, où je voulais aller, c'est qu'en fait, ils ont fait une très jolie affiche qui s'appelle « Let the people faire la fête ». Et je les ai appelés pour leur demander si je pouvais leur piquer leur slogan pour en faire un morceau. Et c'est le premier morceau que j'ai fait pendant le confinement, au moment où j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de faire de la musique, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui me manque le plus? Et en fait, oui, c'était le fait d'aller faire la fête. Alors pour moi, la fête, c'est très souvent avec de la musique, mais c'est pas forcément que ça. Je peux facilement un dîner dans un bon resto avec des bonnes bouteilles de vin et des bons potes, c'est la fête aussi. C'est-à-dire que la fête, on n'est pas obligé de finir en slip et montrer nos fesses aux passants. Non, mais tu vois ce que je veux dire, d'aller jusqu'au bout du truc à prendre une soupe à l'oignon à 7h du matin complètement bourrache. C'est pas forcément toujours synonyme de avoir bu ou quoi que ce soit. C'est des moments de bonheur partagés avec les autres. C'est ça pour moi la fête. C'est pas forcément bouger et danser, même si ça l'est assez souvent, parce que c'est quand même mon boulot et c'est vrai qu'on finit assez souvent à mettre de la musique et à bouger un peu nos fesses, mais c'est pas toujours ça. C'est le partage. Je peux pas avoir cette notion de fête seule, mais on peut très bien faire la fête à trois.
Et est-ce que ça a une place importante dans ta vie?
C'est une question idiote. C'est ouais. Vital, mec. Je travaille dans le monde de la nuit. Jouer de la musique ou partager de la musique, c'est mon rêve depuis que j'ai 10-12 ans. Et même avant ça, parce qu'en fait, mes parents faisaient pas mal la fête. Et quand ils avaient du monde à la maison, le but ultime pour moi, c'était d'arriver à choper un ou deux invités, les emmener dans ma chambre et de leur jouer un disque qui viennent danser dans ma chambre. Donc j'avais déjà cette envie de faire la fête aux autres, tu vois.
Mais du coup, t'avais cette attraction presque plus de faire la fête aux autres.
Les deux. Parce qu'en fait, je kiffe tellement quand je joue de la musique et quand je la partage que je prends autant de plaisir, sinon plus, que les gens. Vraiment.
Ah oui.
Oui, vraiment. De toute façon, j'ai toujours dit, le jour où je ne prends plus plaisir à jouer de la musique et à faire danser les autres, j'arrêterai parce qu'il n'y a plus de but dans tout ça. Si j'arrive pas à me donner la fièvre et à la choper et puis à la voir, tu vois, comment veux-tu que je la partage avec les autres? Donc c'est viscéral, je suis obligé de la voir, je suis obligé de la choper.
Alors pour revenir à la jeunesse de ce désir, t'as grandi dans une famille de forains?
Mon papa était forain.
Ton papa était,
mes grands-parents étaient forains, mais mon papa a arrêté quand j'avais 6-7 ans. Après,
okay.
Après, il a changé de boulot, mais il a gardé contact avec beaucoup de ses anciens amis forains. Et donc, nous passions pas mal de temps, alors à l'époque, à la période de la foire du trône, donc je pense que c'est avril, mai, juin. Et puis après, juin, juillet, la fête des loges à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on habitait à côté de la fête des loges. Et comme c'était deux fêtes que mon père faisait tout le temps, voilà, on y allait souvent et on allait rencontrer ses potes, les familles de forains.
C'est quoi la fête de la fête foraine? Est-ce que c'est pas d'une certaine manière une première expérience qui se rapproche un peu du club?
avec la musique à fond.
Complètement, en fait, moi, mes souvenirs des fêtes foraines, et je pense d'ailleurs que les fêtes foraines ont beaucoup changé, parce qu'on est sur des manèges aujourd'hui qui sont un peu plus violents qu'avant, et donc on est vraiment sur ce truc très sensationnel et tout, alors qu'avant, il y avait un truc assez artisanal, on va dire.
Sensation, force 5, maintenant.
Mais les souvenirs que j'ai, moi, d'enfance de fêtes foraines, c'est... des très grosses sonos, des très grosses enceintes, des boules à facettes, des lumières. On voit le jour, hop, ça s'éteint parce qu'on est dans une chenille. Et tu vois ce que je veux dire, jour-nuit. Et il y a ce truc où on joue de la musique fort. C'est de la musique souvent de club.
Attention, vitesse maximum.
En tout cas, à l'époque, les forains avaient accès au top 50 de l'époque. Enfin, ils allaient acheter des disques dans des endroits spécialisés. Ils achetaient tous les 45 tours à la mode. Et c'est vrai qu'on écoutait la musique qui était jouée dans les clubs. Et donc, comme moi, j'étais trop petit pour aller dans des clubs et j'avais mon grand frère qui me faisait aussi écouter de la musique à la maison, je savais que c'était des disques importants. Et en fait, le seul lieu où moi, je pouvais aller les écouter sur des sons énormissimes, sur des sound systems énormes, c'était dans des fêtes foraines. Donc mes souvenirs de gamin, c'est même pas le manège, c'est plutôt l'attente dans le manège où il n'y a pas d'émotion encore parce que ça tourne pas vite. T'attends ton tour de manège, t'attends 3-4 minutes le temps que le mec il vende ses tickets et t'entends de la musique. Alors le manège va très très lentement comme ça et tu passes à côté des enceintes et le moment où tu passes à côté des gros speakers comme ça qui te crachent toutes les basses, ça c'était jouissif. Non mais vraiment, hein, ça c'est des souvenirs très forts.
La fête foraine, c'est ton premier souvenir de fête ?
Est-ce que c'est mon premier souvenir ? Oui, lié avec... Alors je ne sais pas quel est le premier du premier, mais c'est sûr que la fête foraine sont des souvenirs très forts d'émotions où la fête existait. Au même moment, on partait tous les ans en Italie en vacances et mes parents allaient souvent danser dans un... Ils avaient des amis qui tenaient un dancing et en fait, ils nous emmenaient, moi et mon grand frère, ils nous emmenaient danser et je crois que j'ai été dans un dancing jusqu'à 2-3 heures du matin à partir de l'âge de 6-7 ans et j'y allais tout le temps avec eux et j'avais toujours envie d'y aller. Et puis, mes parents aussi, franchement, hein, faisaient pas mal la fête.
Ouais,
ils ont pas mal fait la fête chez nous. Donc, quel est le premier souvenir ? Je ne sais pas. En tout cas, tout ça est très lié.
En tout cas, ça faisait la fête chez toi quand tu étais petit.
Oui, ça se voyait, ça partageait des moments ensemble et oui, ça faisait assez la fête.
Tu dirais qu'ils t'ont inculqué un sens de la fête ?
Je sais pas, parce que je pense que même si mes parents n'avaient pas été comme ça, je crois fondamentalement que je serais la même personne. Il y aurait eu cette envie viscérale de partager des moments de bonheur avec d'autres personnes où la musique est jouée forte, ou tout ça, tout ce qui m'excitait quand j'étais môme. Peut-être que mes parents, oui, ils ont allumé la mèche. Mais vraiment, quand je réfléchis à ma jeunesse et à ce que je voulais faire, tu vois, quand mes potes, j'avais 8 ans, mes potes, ils allaient jouer au foot dans le jardin. Je restais dans ma chambre à écouter des disques. C'était pas normal pour un môme de 8 ans. Et puis le soir, je me réveillais quand mes parents dormaient. J'allumais la chaîne stéréo familiale. Je mettais un casque et puis j'enregistrais des cassettes. C'est pas des trucs normaux, ça. Normalement, j'aurais dû dormir. Donc, je crois que je suis un peu né quand même avec ce, avec ce truc-là. qui était tout prêt à s'allumer. Vraiment, je crois qu'il y avait juste un bouton et un jour, ils ont dû mettre on et puis voilà. Mais c'est drôle parce que j'ai une obsession depuis que je suis petit des lumières. C'est-à-dire que j'habitais à côté d'une nationale et quand ils venaient faire des travaux sur la nationale, ben en fait, moi, quand j'étais môme, j'allais piquer les lumières des mecs qui bossaient sur la route parce que ça flashait et en fait, je les mettais dans ma chambre et ça faisait discothèque. C'est-à-dire que là, regarde, je vais te décrire le studio. Là, on est dans un studio, il y a une table, il y a trois néons roses et tu es près d'une petite console avec 8 lumières. Et ça... Je suis arrivé dans cette pièce, j'ai vu ça. Tout de suite, pour moi, ça coïncide à la nuit, les clubs, la lumière dans des clubs. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour donner une ambiance avec ça ? Non, mais c'est un truc qui est collé dans ma tête. C'est très bizarre, hein, c'est très bizarre.
Et effectivement, comme tu le dis, rapidement, ta chambre d'enfant se transforme en club.
Alors, c'est assez drôle parce que dans... Là, j'ai sorti un documentaire et dans le documentaire, à un moment, tu vois ma chambre d'enfant. Et donc souvent là on est en train on a fait une tournée en France et on a rencontré plein de gens dans les cinémas, on parle avec le public.
Donc c'est off the record.
Ouais, ouais. Et souvent on me dit, mais c'est quoi cette obsession de Marilyn Monroe dans ta chambre? Parce qu'en fait tu vois, dans ma piole d'enfant, il y avait 50 000 posters de Marilyn Monroe. Alors à chaque coup je leur dis, non, je ne suis pas complètement obsédé par Marilyn Monroe. Faut comprendre le cheminement du môme qui a 14 ans ou 13 ans, qui un jour va déposer son grand frère dans un club en Italie.
Baia Imperiale.
La Baia Imperiale. Et le logo de la Baia Imperiale, c'est la tête de Marilyn Monroe. Ok, ah. Donc ma chambre remplie de posters de Marilyn Monroe, c'est pas Marilyn Monroe à qui je voue un espèce de truc complètement mystique. C'est la Baia Imperiale. Et très rapidement, je vais dire à mon frère, je vais y aller, il faut que j'y aille. Et donc, bien sûr, à l'âge de 14 ans, mon frère a un restaurant, je vais travailler là-bas tous les week-ends et je lui dis, moi, je viens bosser. Mais le seul truc, tu m'emmènes en boîte après. Et donc voilà, j'ai commencé à sortir très tôt. C'est vrai qu'aussi, je suis d'une génération où les discothèques étaient ouvertes tous les dimanches après-midi. Et donc, j'allais, depuis l'âge de 13 ans, j'allais en discothèque tous les dimanches, écouter des DJ, noter leurs disques, et puis regarder les boules à facettes et le stroboscope. mais oui, oui, ma chambre, il y avait un stroboscope, il y avait un gyrophare, il y avait un modulateur avec des spots, il y avait... j'avais acheté plein de trucs de merde partout, il y en avait partout dans ma chambre. Et Marilyn Monroe qui était extrêmement omniprésente dans ma chambre.
Et cette première image que tu as de la Baia Impériale en déposant ton frère, ça te marque immédiatement?
Alors déjà, la boule à facettes, il faut savoir que c'est une obsession chez moi depuis ma plus tendre enfance, parce que ça représentait la discothèque et le disque de Donna Summer. C'est deux choses qui sont arrivées un peu à ce moment-là, en tout cas quand on a déposé mon frère. Et là, j'ai pris une paire de baffes et ça a été hyper fort, hyper fort.
Pourquoi ça te marque autant à ce moment-là?
Je sais pas, parce que déjà le disque il est génial, parce que j'avais déjà cette obsession de lumière veut dire nuit, club. Tu sais, j'ai grandi avec cette génération de gens qui regardaient Mourouzi à la télévision et qui présentaient le 13h, certes, mais au 13h, ils pouvaient parler à des politiques, mais ils pouvaient parler à Iggy Pop.
Et c'est Iggy Pop. Oui, bonjour. Ah, là je crois que... Vous savez que c'est interdit d'allumer quelque chose sur le plateau.
Bonjour Yves.
Ça va?
Ça va bien, ya.
Oui.
Et le samedi soir, ils pouvaient se retrouver au Palace et présenter les Richie Family, les Village People, enfin tout ce que tu veux. Et il y avait une certaine décadence, un truc qu'on ne retrouve plus aujourd'hui à la télé, de gens qui assumaient le fait que c'était des fêtards. C'est les Thierry Leluron et tous ces gens-là. Qui rayonnait, qui brillait, et puis Coluche et tout ce que tu veux, et les Grâces Jaunes, c'est vraiment tous ces gens-là dont on parlait beaucoup, qui allaient au Palace, parce que le Palace avait une très belle réputation. Mon frère allait là-bas, et c'est devenu très vite, pour moi, une espèce d'obsession de savoir ce qui s'y passait. Dès qu'il y avait un magazine qui parlait de la nuit, du disco, j'étais obsédé par ça. On pouvait voir des petits bouts de ce qui se passait à New York, de toute cette musique dont on n'avait pas beaucoup d'informations, parce qu'on n'avait pas l'Internet à l'époque, il faut bien comprendre. Mais je peux te dire que quand tu avais envie d'avoir des infos, tu te nourrissais avec, c'était vachement important. Et c'est vrai qu'il y avait, une vraie obsession du monde de la nuit. J'ai une toute petite anecdote, en fait, mes parents ont rencontré des amis en vacances quand j'avais, je crois, 9 ou 10 ans, et il s'est avéré qu'une de ces personnes, c'est un couple de garçons, et un de ces deux messieurs, qui s'appelait Jean-Louis, était peintre naïf. Et un jour, il m'a dit, Laurent, j'aimerais bien te faire un tableau, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, je veux une discothèque. Il me dit, mais moi, je sors un peu au Palace, mais le monde de la nuit, c'est pas mon truc. Je lui dis, t'inquiète pas, je vais te trouver des magazines. Et en fait, j'avais été choper des magazines dans la chambre de mon frère, avec des photos de gens au bain-douche, au Palace, enfin, toutes les boîtes de l'époque, et au set, et tout ça. Et je lui ai dit, moi, je veux ces personnages-là, dans une discothèque, et je veux une boule à facettes. Et j'ai toujours le tableau à la maison.
Ah ouais,
le tableau est toujours, il est un peu pourri, il a plus de cadre, il n'y a plus rien. Et il y a notamment, et ce qui m'a beaucoup touché, il a mis un personnage qui n'était pas du tout de mon âge, donc beaucoup plus grand, où il avait marqué Laurent sur sa combinaison. Il m'a dit ça, c'est toi plus tard. Et je lui ai dit non, je pense que je serais plutôt derrière les platines. Mais j'étais tout jeune, hein, j'étais tout jeune.
Mais tu sais, ce qui te fascinait dedans, c'était quoi? C'était le côté secret? C'était le côté sensuel, glamour?
Je pense le fait de pouvoir braver les interdits. J'avais pas le droit de sortir, j'étais trop jeune. Et puis je voyais mon frère, il était beau, il s'habillait, il faisait la fête. Et j'admirais son groupe de potes, de copains, de copines. Ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient les cons. Puis ils allaient dans des boîtes où, visiblement, ça faisait assez les cons, tu vois. Et il y avait pas mal de boîtes gays, un peu décadentes. Ça me faisait rêver. Tu parles, j'étais en banlieue parisienne, j'étais sur la Nationale 13 à Bougival. C'était vraiment pas le truc le plus sexy du monde. Donc forcément, le palace, tout ça, c'était... Moi, je veux y aller. Je veux vivre ça, je veux vivre ce que mon frère il est en train de vivre, je le voyais heureux, tu vois, et c'était hyper excitant.
Ton frère, ça a été un initiateur à la fête pour toi ?
Ouais, ouais, c'est lui qui m'a ouvert les portes, forcément, puisque le deal, c'était je viens travailler dans ton resto, tu me fais sortir. Et comme il sortait tous les soirs, et puis c'était vraiment la période des années 80 où Paris était rayonnant. Il y avait une folie dans Paris à l'époque. Moi, je me rappelle, à l'âge de 17 ans, j'ai eu une petite amie qui était plus âgée que moi, donc qui avait une voiture, donc j'avais la chance d'aller chez elle le week-end. Et je me rappelle très bien que le samedi soir, on partait en bagnole pour sortir, pour rejoindre mon frère, ou pour aller au resto, ou quoi que ce soit. Et si on était sur les grands boulevards à 2h du matin, il y avait 1h30 de queue. Il y avait tellement de monde devant le Rex, là, pour aller au Palace. Il y avait tellement de bouchons. Il y avait des bouchons la nuit à Paris. Ça, c'est les années 80, parce que c'était assez fou, Paris, à cette époque-là. Les gens sortaient quand même beaucoup plus. C'était pas que réservé aux jeunes de sortir. C'était tout le monde, tous les âges et toutes les classes.
Et toi, tu savais à ce moment-là que tu voulais faire ça de ta vie ?
Non mais ouais, moi je faisais des cassettes depuis l'âge de 13 ans, même avant ça. Moi j'ai commencé, j'ai fait de la radio pirate à 14 ans, à l'époque de Mitterrand, quand il y a eu l'explosion de la bande FM et puis les radios pirates. J'ai eu un pote qui a fabriqué son propre émetteur, qui était mon voisin, et donc en fait on allait chez lui le week-end et on faisait des émissions sur Radio Teenager, qui était notre radio, où bien sûr j'avais pas assez d'argent pour acheter des disques, donc j'enregistrais les autres radios, j'enregistrais les émissions d'import, je faisais des espèces d'édits de cassettes à haute cassette, et puis après je repassais des cassettes parce que j'avais pas tous les 45 tours et tous les albums. Dès que mes potes faisaient des booms, j'arrivais avec des sacs entiers de disques, j'étais prêt à traverser tout Paris pour aller jouer des scuds, et surtout j'allais à Chandisque acheter des disques. Dès que j'avais 100 balles, parce que c'était cher les disques, c'était très cher parce qu'en fait il y en avait peu, c'était des imports, ça coûtait vraiment, ça coûtait du blé, et voilà, je vouais absolument tout à la musique. Et après, à l'âge de 16 ans, je pars de la banlieue, je vais à Paris parce que je fais l'école hôtelière. J'étais avec une fille plus âgée dont je te parlais, donc qui, grâce à elle, je pouvais sortir tous les week-ends. Et puis, à la seconde où j'ai fini l'école hôtelière, je me casse à Londres.
À Londres, à 18 ans, t'arrives pour être serveur à l'ambassade de France. Et là tu découvres vraiment la teuf.
Bah oui. Oui, parce que je suis assez grand pour aller en boîte sans être accompagné, parce que j'ai l'âge. Et puis, parce qu'il y a un moment où tu te dis Paris c'est cool, mais Londres c'est plus excitant. Parce que, tu vois, à Paris, il y avait les clubs gays, qui étaient vraiment des endroits super excitants à l'époque où tu écoutais du disco, voilà, une musique plutôt black. Et puis, tu avais aussi un club comme La Piscine, qui était rue Tilsit, qui était dans une ancienne piscine, qui était le lieu à Paris, il y avait le Rose Bonbon aussi, mais qui était le lieu à Paris où on écoutait de la New Wave et donc toute cette nouvelle mouvance qui arrivait et tout ça. Mais il n'y avait pas tout ce que j'avais envie d'entendre. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours écouté toutes les musiques et je me suis toujours bien senti dans toutes les sous-mouvances. Donc j'avais des potes qui écoutaient du rockabilly, moi j'étais très heureux à écouter du rockabilly avec eux. Voilà, on écoutait Crazy Cavan et Robert Gordon et on dansait sur Rockabilly Boogie, ça me plaisait. Et puis j'avais mes potes qui écoutaient de la funk, donc j'étais très bien avec eux. Et puis j'avais des potes qui écoutaient du rock, voilà, du AC/DC ou du Led Zepp et des choses comme ça. Et ça me plaisait aussi. J'avais d'autres copains qui écoutaient du reggae et du ska, et j'étais très content avec eux aussi. Donc moi, je me sentais bien partout. Mais c'est vrai qu'on était à une période où il fallait choisir son camp, camarade, ouais. Tu vois. Mais moi, j'ai jamais choisi mon camp, donc je pouvais très bien être... avec des Gégènes un jour et un Teddy, et le lendemain j'avais un truc disco parce que je me sentais bien. Donc il y a un moment à Paris où c'était vraiment des niches fallait choisir son
des
camp.
Clans.
Ouais. ouais, c'était pas des niches, c'était des clans. Je me suis dit, non, ça m'emmerde. Et en fait, le fait de partir à Londres, j'ai senti la liberté totale. C'est-à-dire que le mercredi soir, j'allais dans tel club à la soirée Twist and Shout et on allait écouter que de la musique des années 60 et du Motown. Et le lendemain, on allait au Busby's et on allait écouter de la New Wave ou du disco ou de la High Energy. Et le surlendemain, on allait écouter de la musique gogo ou le début du hip-hop et ces choses-là. Et en fait, à Londres, tout le monde écoute de tout. C'était cool, tu vois. Et tu peux aller très bien dans un club punk et le lendemain, autre part. Et ça, ça a été fou pour moi.
Et est-ce que la fête à Londres était aussi plus folle, plus extravagante qu'à Paris? Je sais que tu allais dans les soirées de quelqu'un comme Lee Bowery.
Oui, bien sûr.
Qui est un promoteur de soirée à Londres.
Tu sais, Fabrice Aymer, c'était bien dingo quand même.
C'est vrai, Fabrice Aymer du Palace.
Et puis je pense que les bains, à une période, c'était bien ouf aussi. C'était plus décadent que ça l'a été après. Mais c'est vrai que, oui, Londres, c'était plus d'eux. Il y avait un petit peu plus. Non, forcément, il y avait un peu plus. On connaît les Anglais, ils picolent plus, ils sont un petit peu plus dingos. Les soirées de Philippe Salon ou les soirées de Lee Barry, c'était total excentrique. Et ce qui était génial, c'est que comme moi, j'avais passé pas mal de temps dans les clubs gays à Paris grâce à mon frère, parce qu'il m'a vraiment, il m'a emmené dans beaucoup d'endroits. J'allais dans des trucs strictement réservés aux mecs, avec des backrooms, tu vois, genre haute tension. J'allais là-bas parce que, bon, lui, ils allaient baiser avec son copain. Et puis moi, j'allais danser sur la piste, j'allais écouter la énergie, j'adorais ça. Et puis il m'a emmené au Palace, et puis il m'a emmené au 7, il m'a emmené même au 18, dans des boîtes un petit peu plus kitsch où il y avait des spectacles, tu vois, et des trucs comme ça. Et en fait, j'avais l'habitude des clubs gays parisiens. Donc quand je suis arrivé à Londres, je pouvais aussi aller. Lee Barry, c'était des soirées assez gays. Et puis je pouvais aussi me retrouver au Heaven ou des clubs comme ça qui étaient des clubs gays où je me retrouvais complètement et musicalement et puis par rapport aux gens qui étaient là. Puis après voilà, j'ai 18 ans donc je découvre aussi la drogue. C'est des moments un peu décadents de ta jeunesse où tu pars de chez tes parents, tu fais tes expériences. J'ai fait mes expériences, mais très vite, je me suis arrêté. J'ai jamais été quelqu'un qui a kiffé la drogue et tout. Mais par contre, le monde de la nuit, je savais que c'était le monde où je voulais absolument vivre. Et ce que j'aime dans le monde de la nuit, fondamentalement, c'est le fait que les gens sont eux-mêmes. Les gens sont libres d'être eux-mêmes. C'est peut-être un des seuls lieux où les gens s'habillent comme ils veulent, se comportent comme ils veulent. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de leur sexualité, de leurs idées, de tout ça. Et ça, c'est magique.
Ta découverte du monde de la nuit, elle se poursuit sacrément quand tu débarques quelques années plus tard à Manchester. Là, le soir même, je crois, où tu débarques,
oui, tu fonces à la Hacienda. Bien sûr.
Tu fonces à la Hacienda, qui était déjà un club légendaire.
Alors, c'était légendaire, mais la Hacienda n'avait pas eu son moment, l'explosion qu'il y a eu en 88. Il faut bien comprendre que la Hacienda est ouverte. Il y a un très bon film d'ailleurs qui raconte ça, c'est 24 Hour Party People, où ils expliquent que pendant les 6 premières années, à part le concert des Pistols, de Madonna et de je sais plus qui, la Hacienda n'a pas été pleine. Tu vois, ils avaient du mal à remplir le club. Et en fait, c'est les mecs de New Order qui vont à New York, qui vont dans un club à New York, qui disent nous on veut ouvrir le même club que ça à Manchester, mais Manchester c'est pas New York. C'est une ville qui est difficile. Et c'est vrai qu'ouvrir un club de cette taille-là, avec tout ce qu'ils proposaient là-dedans à Manchester, c'était couillu et compliqué. Et c'est vraiment l'arrivée de l'acid house, de l'ecstasy, qui a fondamentalement changé la donne pour la Hacienda. Et c'est là où le club est devenu vraiment légendaire.
C'était comment la fête à la Hacienda et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu aussi légendaire? Comment un club devient mythique?
Parce que il se passe quelque chose là-bas à un moment où ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. L'Angleterre va mal, il y a beaucoup de chômage. La politique de Thatcher est complètement autour de l'individualité. Alors que il y a une nouvelle musique qui arrive et qui prône le vivre ensemble. Et donc, il y a toute une frange de gens qui refusent la politique du moment. Et il y a l'arrivée aussi massive d'une nouvelle drogue qui arrive avec une nouvelle musique. Et tout ça fait que le truc explose bien au-delà de ce que peut-être ça aurait dû exploser. Et le lieu où tout se passe, c'est la Hacienda. Pendant un an, j'ai vu le truc arriver, où au début, on dansait sur la house music, mais c'était des battles de danse. C'était d'ailleurs une clientèle très black, des quartiers de Hume et de Rusholme et certains quartiers un peu chauds, tu vois, de Manchester, où les mecs venaient, ça dealait du shit, et puis ça venait faire des pas de danse, et puis ça venait se chauffer en pas de danse. Et du jour au lendemain, il y a eu une nouvelle musique qui arrive, les gens ont complètement vrillé, la drogue, l'ecstasy est arrivée. Tout le monde a dit c'est le truc du moment, ils étaient jeunes, et en fait, il y a une putain de vague qui a tout changé. C'est-à-dire que la clientèle est devenue à 90% blanche, complètement à donf d'exta, et ils voulaient écouter que de l'acid house. Et la danse n'était plus importante, c'était un exutoire, quoi. Surtout un club qui chavire, qui bascule totalement, où il fait tellement chaud qu'il en pleut à l'intérieur, où les gens ne veulent plus rentrer se coucher du tout, et tu sens qu'il y a une espèce de putain d'énergie qui se développe là-bas, et tu te dis, je suis à l'épicentre du truc. Donc ouais, t'observes.
Toi, c'est évidemment tes premiers DJ sets devant du public que tu fais là-bas. Est-ce que le fait comme ça, de jouer, de jouer devant du public et en plus dans cet endroit-là, ça modifie ton rapport à la fête ? Comment ça te fait évoluer ?
Je ne sais pas si le fait de jouer des disques a modifié mon rapport à la fête. Je ne crois pas, en fait. Ça modifie ma façon de comment appréhender le dance floor. Tu apprends avec le dance floor, tu apprends à jouer avec ton public, à les observer, à comprendre les signes, les signaux, à déchiffrer les choses et d'apprendre les règles du jeu. Comment tu vas jouer aux cartes ? Pour moi, un set de DJ, c'est comme un jeu de cartes. Il faut attendre avant d'abattre son... Je ne joue pas au poker du tout, hein, je ne joue pas aux cartes. Mais je les vois dans les films, les mecs, là, ils sont vicelards. Et en fait, vraiment, c'est... t'attends certains moments pour abattre des cartes, pour rendre le truc plus excitant. Donc tu apprends tout ça quand tu joues des disques. Mais ça ne change pas ma perception de la fête.
Quand tu abats tes cartes dans le DJ set, c'est dans quel objectif ? Il y a dans ton documentaire, justement, Off the Records, il y a Carl Cox qui dit à un moment donné que tu veux nous faire pleurer. Est-ce que c'est vrai ?
Oui. Alors, oui, la sensation d'avoir les poils qui se hérissent. Pas toujours obligé de pleurer, mais... Je sais que moi, personnellement, j'ai vécu des moments où des DJ m'ont fait pleurer, ou des artistes, des musiciens m'ont fait pleurer, notamment Gil Scott-Heron. C'était un des derniers concerts de Gil Scott-Heron et je me rappelle que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré ce soir-là parce que c'était vraiment émouvant. Voilà, l'idée, c'est d'aller choper les gens là où tu vas vraiment les faire vriller. En fait, l'idée du DJing, c'est de raconter une histoire et d'arriver à un point, à un moment où les gens s'abandonnent totalement à toi. Mais comme dans un concert. Quand tu vas voir un artiste, c'est que tu aimes sa musique, t'es prêt à t'abandonner. Et si le mec te chope bien et que la magie opère parce que c'est le bon endroit, il joue le bon morceau au bon moment, où il fait la belle version, où il y a un truc qui se passe... Là, quand il te chope, après, il te lâche plus jamais, le mec. Tu vois, tu restes complètement accroché à lui jusqu'au bout du concert. Je pense que t'as vécu ça. Bon, c'est pareil pour les DJ. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut essayer de faire vriller la salle à un point où tu chopes les gens et tu les lâches plus jamais. Et là, l'histoire devient magique. Et c'est là où tu crées des souvenirs indélébiles chez les gens.
ça t'arrive en les observant de pas les comprendre, de pas réussir à saisir ce qu'il faut?
Bien sûr, il y a des soirs où je les sens pas du tout, je comprends pas et je, c'est horrible parce que j'en dors pas du tout après. Enfin, c'est un truc qui me fait mal parce que tu vois, je vais jouer 3 fois à Paris dans l'année ou 2 fois à Paris dans l'année. Il y a des gens qui attendent longtemps, ils vont peut-être pas venir les 2 fois et puis ils vont peut-être venir une fois toutes les 3 fois et donc ça va être une fois à 1 an et demi, tu vois. Et je me dois d'essayer de faire le plus possible pour les toucher parce que c'est mon boulot, je dois le faire le mieux possible. Donc c'est vrai qu'une soirée où je ne sens pas les gens parce que moi je suis pas prêt ce soir-là, parce que c'est peut-être pas le bon club, parce que le son il merde, parce que j'ai pas joué le bon disque au bon moment et en fait le truc a vrillé pas du bon côté, parce que c'est les gens sont pas dans le mood, parce que je suis pas dans le mood, parce que peut-être le mec des lumières ce soir-là il est naze, ou peut-être que moi je suis nul et j'ai... voilà, tout ça fait que parce que j'arrive pas à lire les gens et ça, c'est très difficile. Ça, c'est des moments, pour moi, c'est des moments très, très difficiles. Parce que je cherche toujours à créer ce moment, à chercher ce moment, ou en tout cas à trouver ce moment où la salle bascule. Et je te jure que quand ça bascule, c'est vraiment magique. Parce qu'après, tout devient logique. Tu ne te poses plus jamais aucune question. Tu peux jouer ce que tu veux, en fait. En fait, tu peux jouer tout ce que tu veux après. Tu les as dans la main, tu les as pris avec toi. Tu sais, je vois vraiment ça comme un chauffeur dans une locomotive. Je suis devant. Voilà, je mets du charbon et j'essaye de tirer les wagons vers moi, tu vois. Et à un moment, on va assez vite. J'essaye de sauter dans le wagon avec eux et on... Après, il y a le pilote automatique. Et en fait, je vais avec eux. Je danse avec eux, je partage tout avec eux. Et il n'y a plus le mec qui est sur scène... qu'on regarde, il y a un truc de mélange, de partage, de symbiose, je sais pas quel est le bon mot, mais il y a un truc qui est très fort et ça c'est ce qu'on cherche, enfin, c'est ce que je cherche.
Ouais. Mais là à ce moment-là, la fête elle bascule dans autre chose, on n'est pas dans s'amuser, se divertir.
On s'amuse, on se divertit, mais on oublie tout, c'est-à-dire qu'on oublie le temps, on oublie nos emmerdes, on oublie l'heure, on s'abandonne. On s'abandonne, mais est-ce que c'est pas ça la fête?
Mais c'est presque, ce que tu me décris, c'est presque une communion mystique, quoi. Il y a un truc
ouais, complètement dans le côté DJ que les gens lâchent, ouais, complètement. Ah, il y a un truc très mystique, mais c'est très 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 mystique. Moi je suis persuadé qu'il y a un fil tellurique qui va passer du sillon du disque au diamant à la tête de la platine qui part dans les enceintes et qui va se cracher sur les gens. Non mais ça j'en suis sûr. Et d'ailleurs pour moi un club qui marche pas, c'est un club où l'énergie est mal desservie. C'est-à-dire qu'une piste de danse où il y a derrière la piste de danse des sorties, ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'il y a un moment, il faut que l'énergie circule d'une façon pour que les gens soient complètement enveloppés. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des clubs qu'on connaît tous, que des gens ont ouverts, qui ne marchent pas. Parce que... le mec a designé le club, je crois qu'il a jamais été dansé de sa vie. Il sait pas ce que c'est que de danser dans un lieu un peu clos où l'énergie a besoin de circuler d'une certaine façon.
La fête, elle peut se faire aussi hors du club, hors les murs. On parlait de l'Hacienda à un moment donné. Cette énergie que tu décrivais, elle déborde tellement que ça donne les rave parties. En Angleterre,
oui, oui, bien sûr.
Et là, l'explosion d'énergie, elle est encore plus forte, elle est encore plus libératrice. Comment t'as vécu ça, toi ?
Moi, j'ai autant de jouissance à jouer devant 6 potes chez moi, ou chez eux, même avec un iPod, si tu veux, que je peux avoir devant 6000 personnes. C'est le même plaisir pour moi de partager des moments comme ça, qu'on soit 6 ou qu'on soit 6000. C'est la même chose. Alors oui, forcément, quand tu te retrouves dans les champs, dans des lieux complètement dingues, à aller jouer de la musique devant 10 000 personnes, et ça crie, et c'est y a un espèce de truc viscéral, tu vois. C'est très fort, bien sûr que c'est hyper fort. Mais je suis désolé, c'est la même chose pour moi quand je suis avec 20 potes pour un anniversaire où je leur dis « Allez, je joue quelques disques et en fait, on va danser pendant 4 heures, c'est la même chose. C'est le même truc, c'est juste un peu plus grand. Mais le plaisir est le même. C'est le même plaisir. C'est le plaisir du partage. Et la fête, c'est le partage.
Après ton expérience en Angleterre, tu reviens en France pour faire ton service militaire malgré toi, malheureusement. C'est un peu la douche froide. Mais heureusement, tu avais rencontré un certain Marc Moore à la Hacienda qui va t'amener au Palace puis au Rex.
Ouais.
Et pendant un an, je crois que...
Bah, je dors pas.
Tu dors pas parce que t'es DJ et soldat en même temps. Ouais. T'es DJ et soldat la journée, DJ la nuit.
Bah, j'ai la chance d'avoir travaillé à l'ambassade de France, ce qui a fait que quand je suis parti faire l'armée, j'ai fait mes classes pendant 6 semaines. Donc là, je pouvais rien faire. Et après, j'étais affecté à Versailles, au mess des officiers, donc j'étais serveur. Et c'est vrai qu'à Versailles, à 10h du soir, une fois que tu avais fini le service du soir, il n'y avait rien à faire jusqu'à 8h le lendemain matin. Et donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit au sergent, écoutez, est-ce que je peux rentrer chez moi le soir ou est-ce que je peux sortir le soir? Il me dit, tant que tu es là à 8h le matin, place du rapport, tu fais ce que tu veux. Et j'ai fait, ok.
C'est pas tombé dans l'oreille d'un soir.
Okay. Et donc, oui, j'ai été faire cette première soirée que Marc Moore m'avait offerte au Palace avec ID Magazine. Et puis, en même temps, les promoteurs de cette soirée qui organisaient ça tous les mardis au Palace faisaient une soirée tous les vendredis au Rex. Et en fait, quand j'ai fait la soirée au Palace, ils ont vu comment je jouais. Ils m'ont proposé de faire toutes les ouvertures et les fermetures de leur soirée. Et donc, voilà, je me suis retrouvé en l'espace d'une semaine à faire tous les mardis au Palace, tous les vendredis au Rex Club. Et donc, très, très vite, j'ai été faire les Getty Dance au Palace et des choses comme ça. Et je me suis retrouvé à jouer 5 soirs par semaine.
Et on arrive à autant se mettre dans la fête quand toute la journée on est soldat et qu'on
alors
au-delà de la fatigue.
Alors messe des officiers, c'est t'es dans la restauration en fait, même si tu mets ton truc kaki, t'es quand même dans la restauration. Donc j'arrivais, je faisais la mise en place, après j'allais dormir une heure, je faisais des micro-siestes, après je faisais le service, donc ça finissait tôt, tu vois, 14h, 14h30. Après j'allais dormir un peu l'après-midi, je refaisais le service du soir et puis je sortais toute la nuit. Donc je dormais 3 heures, 4 heures par jour, par des petites phases de 1 heure, 1 heure et demie, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je fasse mon trou, il fallait que je fasse mon truc, tu vois. C'était vraiment le début aussi de cette musique en France et je voulais en faire partie, j'en voulais quoi. J'en voulais, puis j'en veux toujours.
Tu décrivais un peu ce qu'est un bon club dans sa conception. J'aimerais qu'on parle au moins un tout petit peu du Rex, évidemment, puisque tu vas devenir...
C'est un bon club.
C'est un bon club, tu trouves?
Si tu veux, j'ai été résident pendant presque 15 ans au Rex. Et puis ça fait 30 ans que je joue au Rex, donc oui, je trouve que c'est plutôt un très bon club.
Donc le Rex, qui est boulevard Poissonnière, dans le 2e arrondissement de Paris, au sous-sol du célèbre cinéma, ouais. c'est ta maison?
Bah, c'est ma maison parce que Christian, qui est l'ancien patron du Rex, parce que Christian est devenu mon manager très rapidement, parce que Christian nous a ouvert les portes. C'est quand même Christian qui a eu la toute première soirée house à Paris, au Rex Club. C'est au Rex Club, j'étais à l'armée, j'ai fait le mur et j'ai été à cette soirée. C'était des Anglais, c'était Kevin et Barbara qui faisaient ça. C'était une soirée jungle et c'était la toute première soirée house et acid house parisienne. Et donc oui, c'est le mec qui a pris le risque de changer, de passer du rock'n'roll à la house et à la techno, de nous ouvrir ses portes, de nous faire confiance, ce qui n'était pas gagné à l'époque. Et très rapidement, quand on lui a demandé est-ce qu'on pourrait faire des résidences, il nous a dit oui. Vraiment, il nous a laissé faire notre truc. Et surtout, c'était pas un patron de boîte banale qui ne voulait que faire du fric. Christian, il a toujours compris que investir pour ne pas gagner d'argent tout de suite, ça allait peut-être porter ses fruits plus tard.
Qu'est-ce qui représente le Rex dans l'histoire du club français ?
Je pense que c'est un peu la maison mère dans cette musique-là. Mais c'est pas que le Rex, hein. Il y a eu d'autres endroits. Il y a eu l'Enfer à Dijon. Il y a eu quelques clubs comme ça en France qui ont, dès le début, ouvert leurs portes pour qu'on puisse aller jouer notre musique. Mais c'est vrai que le Rex, il représente le berceau en France de cette musique-là. Un lieu mythique, quoi.
T'évoquais l'Enfer à Dijon, où t'as été résident aussi, hein, au début des années 90. C'est un club qui est pas parisien, qui à un moment donné dans l'histoire de la musique reçoit
tout le monde
de la house et de la techno à cette époque-là. Comment un lieu comme ça émerge ?
Ça tient toujours à une personne. Ça tient toujours à une personne qui t'ouvre la porte et qui te dit on y va. La première soirée que j'ai fait à Dijon, on a fait 800 personnes. À 11h du soir, il y avait 800 personnes. À 1h du matin, il y avait 30 personnes dans le club. Et donc, à la fin de la soirée, à 4h du matin, j'étais voir Fred, le patron, et je lui dis, bon, bah, on arrête. Il me dit, sûrement pas. Il me dit, recommence le mois prochain. Je lui dis, t'es un malade, t'es un fou. C'est-à-dire que t'essayes de faire quelque chose, on a vidé ton club. Il me dit, j'en ai rien à foutre, moi j'y crois. Et voilà pourquoi l'enfer de Dijon est devenu le deuxième endroit en France où on pouvait écouter cette musique-là. Ça tient toujours à des personnes qui y croient à fond et qui y vont à fond. C'est aussi simple que ça. Le Rex sans Christian n'aurait jamais été le Rex. L'enfer sans Fred n'aurait jamais été l'enfer. C'est simple. Et Concrete sans légende Concrete n'aurait jamais été Concrete. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert un club à un moment où franchement la proposition des clubs parisiens à l'époque, c'était de la merde. T'avais des clubs hyper hype, mais t'entendais de la musique de merde et ça les faisait tous rire. Et il y a un moment où Concrete a fait, c'est bon, on arrête les conneries, on va ouvrir un club où on joue de la musique.
Toi, bah dans, au Rex, dans les soirées, entre autres dans les soirées Wake Up que t'organises au Rex, tu fais jouer tous ces pionniers de la techno de Détroit, le label Underground Resistance, Jeff Mills, Robert Hood, Derrick May. Cette musique, la techno, la Détroit, c'est une musique noire qui est née de l'oppression, qui est née d'une situation raciale dans une ville aussi dure que Détroit. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, c'est politique, la fête, le club ?
J'ai pas encore cette conscience-là. Et c'est vrai que quand tu les rencontres au départ, et tu sens qu'il y a une méfiance au départ. Tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe ? Alors tu entends les histoires, t'es pas idiot, mais tant que t'y as pas été, t'as pas vécu ce truc-là. Et je sens qu'il y a, ils veulent raconter quelque chose, ils veulent faire passer un message, mais on reste très jeune, on ne sait pas encore exactement la vie qu'ils ont eue, on n'a pas encore assez échangé pour comprendre tout ça. C'est plus tard, c'est quand on va à Chicago, quand on va dans certains quartiers à New York, quand on va à Détroit ou... où là, très très vite, tu te rends compte que c'est pas la même. Et c'est vrai que nous, au départ, on était très naïfs. Nous, on a écouté cette musique et on a trouvé ça... C'est très bête, hein, on a trouvé ça génial. C'était la musique de notre jeunesse. C'était très excitant. Mais cette musique venait de mecs qui faisaient ça pour survivre un peu, tu vois, pour essayer de faire autre chose et d'essayer d'avoir à bouffer à la fin du mois, quoi. Et ça, on a mis du temps à le comprendre. On a mis du temps.
Tu t'es forgé une conscience politique à travers cette musique ?
Je pense, ouais, je pense. Puis à un moment, tu te rends compte que tu as un impact sur certaines personnes. Donc, c'est là où tu te dis, je peux pas faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Ça emmène quelque part, tu vois, quand tu dis quelque chose. Donc, il faut faire attention. Et bien sûr, le fait de voir comment ça se passe aux États-Unis, mais aussi dans d'autres endroits. Au Brésil, tu vois, dans des lieux comme ça, où la musique devient un truc très politique, forcément, tu te forges une conscience.
Et aujourd'hui, tu dirais que tu as une conception politique de la fête et du dance floor ?
Je vais essayer une fois de temps en temps de dire quelque chose, quand je suis quelque part. Voilà, si je sais que c'est important... Parce que le moment est important, parce qu'il se passe quelque chose, ou parce qu'on est dans une ville qui a une certaine histoire, et donc c'est pas mal de leur dire « je vous comprends » ou « je vous aime » ou « je sais ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord avec votre président » ou blablabla.
Par exemple, t'as joué au Bassiani à Tbilissi, la capitale de la Géorgie.
Bah, tu joues un morceau, un anthème gay, tu vois, forcément, t'es dans une ville où l'après-midi où on arrive, il y a une tellement grosse manifestation de FAF qu'ils ont bloqué l'équivalent des Champs-Élysées parce que l'après-midi, ils avaient montré un film où il y a deux mecs qui s'embrassent ou un mec qui branle un autre mec. Et c'est vrai que quand t'arrives dans un lieu où c'est un des seuls lieux dans la ville où ça parle... et où les gays peuvent être ensemble et peuvent assumer leur sexualité et puis voilà, être eux-mêmes, Bah oui, tu balances un message, mais autant que quand tu vas jouer dans un club en Israël et que tu t'es tapé tous les connards sur Internet un ou deux mois avant en te disant c'est un scandale que t'ailles jouer là-bas, donc forcément tu vas dans un club qui est pas un club normal parce qu'il est tenu par un juif et un arabe et c'est un couple gay, donc forcément bon, et donc tu joues Promise Land ou tu joues un morceau qui leur dit quelque chose, tu vois, t'essaies de trouver un track. Et quand tu fais la réouverture du Bataclan après les attentats, bah, tu avec quoi tu ouvres ? Bah, tu balances un message. Quand tu vas aux États-Unis, j'arrive à New York et c'est le Muslim Ban là de Trump, et déjà tu arrives à l'aéroport et tous les gens te matent et tu sens qu'il y a un putain de malaise dans la ville. Il vient juste d'instaurer ce merde de Muslim Ban. Qu'est-ce que tu joues le soir même ? Pour leur dire aux gens qui se sont déplacés, là, qui sont venus te voir dans le club, pour leur dire « je suis pas d'accord avec ton connard de président » et je pense que toi, tu n'étais pas d'accord non plus avec lui. Bon, ben voilà, j'ai joué Martin Luther King, « I have a dream », j'ai laissé tout le speech, même si le speech n'a pas été fait du tout pour ça, quand il dit « j'aimerais bien qu'une petite fille noire et qu'un petit garçon blanc puissent marcher dans la rue ensemble et que, voilà, on les regarde pas ou que ça devienne pas une affaire d'État et tout », je peux te dire que ce soir-là, ça a vachement résonné et... Et j'ai eu un gars qui était sur la piste, qui était en pleurs, et il a bien compris ce que j'ai essayé de lui dire. Quand tu joues Porcherie, je l'ai joué dimanche dernier, voilà, c'est le moment de le jouer. Voilà, il y a des disques, une fois de temps en temps, faut les jouer, quand c'est le bon moment.
1, 2, 1, 2, 3, 4, la jeunesse en mer, le Front National, la jeunesse en mer, le Front National, la jeunesse en mer, le Front National, la jeunesse en mer, le Front National.
Je me demandais, est-ce que toi, tu aimes essentiellement voir danser les gens ou est-ce que tu aimes danser ?
Je pense qu'il est impossible de donner la fièvre si toi, tu peux pas l'attraper. Moi, j'adore danser. Moi, je suis un danseur. Je danse depuis que je suis tout petit. Et en fait, je pense que tu le vois quand je joue. Je danse beaucoup. Alors, je gesticule. Après, définition de danse. Hein ? Ça, ouais, c'est voilà. Autre chose. C'est quelqu'un qui va bouger son corps dans tous les sens. Alors, t'en as qui sont élégants et d'autres qui ne le sont pas, mais on s'en fout. C'est pas l'idée. Je gesticule beaucoup. Et oui, j'adore danser. Un grand danseur, pas au sens vrai danseur. Je suis quelqu'un qui va... tu vois, j'ai été 5 jours au Festival Meux, j'ai dansé pendant 5 jours.
Ces dernières années, plus récemment dans ta carrière, ces dernières années, t'as pas mal initié ou participé à des petits festivals. Tu as toi-même lancé en 2013 le festivalier à Lourmarin, oui. Où tu habites dans le Luberon. Oui. T'as volontiers participé au bal de vieux de ton ami Jules-Édouard Moustique à Guétari dans le Pays Basque.
On en fait un cet été, là, pour les Restos du Cœur, justement. Ah bah.
C'est important pour toi, ça, la petite fête locale entre copains?
La famille, c'est très très important. La famille de potes, c'est très important. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, mais c'est le... Je te parlais du Festival Meux. C'est des gens que j'adore. C'est la famille. Pareil avec les gens des Nuits Sonores, pareil avec Astropolis, avec tous ces festivals plus ou moins grands d'ailleurs, qui ont commencé souvent petits, qui ont grandi. Après, si tu prends le Meux, il peut pas grandir. Le Yé, on va pas grandir non plus. Mais il y a d'autres festivals qui grandissent, mais... La famille, c'est le nerf du truc. D'entretenir cette amitié-là et ces relations, les relations qu'on a, parce qu'en fait, on va dans le même sens. Ce sont des gens avec qui je me sens en phase, puisque ce sont des gens qui défendent les mêmes valeurs. Je me sens complètement libre chez eux. C'est là où tu vis tes plus jolis moments de magie.
Qu'est-ce qui relie au fond une soirée fête foraine en banlieue parisienne, une fête entre copains dans le Luberon, une soirée à l'Hacienda ou au Rex? Est-ce qu'il y a un connecteur?
Des émotions. Partager un moment unique qui va nous laisser de longues séquelles positives. Très positives. De longs souvenirs, de grands souvenirs. C'est des albums photos sans le papier. C'est des cartouches de bonheur que tu gardes gravées voilà, près de ton cœur.
Mais est-ce qu'on peut se perdre dans la fête ?
Complètement. Il faut faire très attention, c'est dangereux. Très dangereux. Et d'ailleurs, la ville de Berlin est très, 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 très dangereuse. Beaucoup de gens qui s'y perdent. Mais c'est comme tout. C'est comme l'alcool, c'est comme la bouffe, c'est comme tout. Tu peux te perdre dans beaucoup de choses. Bien sûr qu'il faut, il faut faire très attention à ne pas se brûler les ailes, bien sûr.
Comment t'expliques que toi, tu t'es jamais perdu ?
Je suis très bien entouré et j'ai toujours été très très clair avec les gens, avec tous les gens avec qui je travaille, et notamment ma femme d'ailleurs, qui sait très bien me remettre à ma place, mais où je leur ai toujours dit, on ne fait que de la musique, on ne fait pas de politique, et donc on ne change pas la face du monde, et donc on n'a pas des demandes complètement incohérentes. Voilà, on ne demande pas 25 bouteilles de Dom Pérignon quand on arrive quelque part, on ne traite pas les gens comme de la merde. Et le plus important, c'est le jour où moi je vrille parce que j'ai trop picolé un soir et j'ai envie de continuer le lendemain, parce que c'est excitant tout ça. Faut tout de suite me taper sur les doigts et me dire, Laurent, maintenant tu vas t'asseoir.
Dans le film, dans le documentaire Of The Record, tu parles du sens profond de tristesse qu'il peut aussi y avoir dans la fête.
La solitude qui se dégage de tous ces moments avec plein de monde.
Dans cette communion, dans ce partage, ça peut rendre seul.
C'est extrêmement violent de se retrouver... d'avoir des contrastes où on peut te célébrer. Il y a 6000 tu rentres quelque part et tu as 6000 personnes qui hurlent, ils sont heureux de te voir, ils t'applaudissent. Et puis tu vas jouer, il y a un truc de fou qui se passe. Tu termines ton set et 10 minutes après, tu te retrouves seul dans ta chambre d'hôtel, quoi. Parce que t'as un train dans 2 heures, il faut que t'ailles dormir, parce que t'es obligé de dormir. Tu vas finir ton set et boum, 5 minutes après, tu prends un taxi, bim, boum, et t'es à l'hôtel, et t'es seul. Et là, je peux te dire que ces moments-là, les moments de descente, ils peuvent être très violents. Ou même, moi, je voyage toujours tout seul. Je suis toujours seul. Et donc, quand je me fais 3 heures de train, 4 heures de train, 5 heures d'avion, c'est des putains de contrastes, ça. Entre ça et se retrouver avec des gens surexcités qui sont vraiment là pour toi et qui t'aiment. Il y a un truc de partage qui est très fort et clac, ça s'arrête tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des vraies ruptures très, très dures. Et c'est vrai que ça te retranche dans ta solitude. Tu sais, quand tu prends des doses d'énergie comme ça, tu as besoin d'un certain laps de temps pour redescendre. C'est là où tu peux te perdre.
Tu préfères les before ou les after?
Ça dépend. Et tu le fais où ton before, tu le fais où ton after? Non, j'aime pas quand ça s'arrête jamais. J'aime bien mettre un point à la phrase. J'aime beaucoup mettre un point à la phrase et surtout mettre le point avant que la salle soit vide. En fait, je préfère créer un tout petit moment de frustration parce que je sais que ça les marquera beaucoup plus que si on continue ad vitam aeternam.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête?
Les gens trop bourrés. Les cons. Les cons, ça tue la fête. Un mec qui se comporte mal. Enfin, quelqu'un. Un mec, c'est pas forcément un mec. C'est les bastons. C'est ce qui peut stopper la fête, c'est le mec qui a trop fait la fête, qui a été trop loin et donc qui est trop bourré ou qui va aborder ou un mec ou une nana ou d'une mauvaise façon, qui va mal se comporter. Ça, c'est un truc pour moi qui est hyper violent et qui est rédhibitoire. Ça, je déteste ça. Vraiment, je déteste ça.
En guise de conclusion, qu'est-ce que c'est pour toi? Au final, que le sens de la fête, sa raison d'être profonde.
Se trouver des moments de vrai bien-être, de vrais moments où il fait bon vivre. Et ça, c'est vital. C'est vital. Et je te le dis, tu peux le faire avec 2 personnes. Tu rentres chez toi, tu t'es heureux, tu te sens bien et ça te file la pêche, quoi. Moi, une bonne soirée, un bon truc, ça me file la pêche pour la semaine. Je suis bien après. J'ai eu l'impression de vivre un truc pleinement, sans mentir, sans me cacher, sans devoir jouer un rôle, sans rien. C'est tellement génial. Et de partager ça avec les gens que tu aimes, c'est magique. C'est magique.
Le sens de la fête est un podcast de Nicla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
C'est la question impossible, évidemment, mais il va falloir y répondre. Si tu devais choisir une track, le morceau ultime pour faire la fête, ce serait lequel?
Ça dépend à qui tu es. Je sais ce qui va faire décoller ma femme en disque. Je sais ce qui va faire décoller mon fils en disque. Je sais ce qui va faire décoller mes potes. Et moi, tu me fais décoller tout le temps avec Donna Summer. Avec I Feel Love ou You Make Me Feel de Sylvester. Ça marche à tous les coups avec moi. Ça marche à tous les coups. Pouf. pourquoi Donna Summer I Feel Love, putain, pourquoi j'aime ce morceau autant, pourquoi il est synonyme tellement de la fête pour moi. Est-ce que c'est pas l'essence de tout ce que j'aime? La musique noire, le disco, la musique synthétique, la new wave, il y a tout là-dedans, donc peut-être que ce morceau est la synthèse de ce que j'ai toujours cherché. Ça doit être ça.
Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.